Cossette.
Bravo.
En direct.
Bravo en passant.
En direct. Avec JC.
En direct.
Et Patricia.
Radio. X.
Ah là là, cette histoire de puis qui continue à vivre, hein, ça continue à survivre, cette histoire-là qui date d'en fin de semaine. En fait, qui date de la semaine passée où on a appris qu'une députée de QS allait proposer au congrès de QS en fin de semaine la fameuse épicerie communiste. Là, que terme avec lequel Jean-François Lisée n'est pas d'accord.
Non, mais c'est pas communiste.
Lui, il me dit que communiste, il faut que ça vienne avec un gouvernement unique puis une espèce de système politique. Alors que moi, dans ma thèse, mettons qu'on reste au niveau économique, là, ben, le communisme, c'est juste l'inverse du capitalisme. Peut-être que je suis dans le champ. D'ailleurs, je pense que j'ai l'intervenant peut-être pour me ramener à l'ordre et pour me dire, du même coup, ce qu'il pense de ces nouvelles épiceries du goulag. Monsieur Vincent Gelozo, professeur George Mason University et économiste senior à l'Institut économique de Montréal. Salut Vincent, comment vas-tu?
Très bien. Écoute, je comprends pourquoi Jean-François Lisée a réussi à perdre la plupart de ses sièges à Québec solidaire. Quand tu proposes quelque chose d'aussi équivalent, c'est sûr que tu finis par perdre.
Ben, il n'était pas d'accord avec l'idée, mais il disait que c'était pas communiste, c'est socialiste.
À un moment donné, moi, ce que je peux dire, c'est que c'est juste une très mauvaise idée, mais ce que je peux rajouter, parce que tu vas pouvoir trouver... En fait, c'est assez incroyable qu'il y ait une littérature là-dessus parce que c'est en dehors de ce que tu es habitué à discuter comme économiste. Mais pourtant, on a assez d'études de cas pour nous permettre de dire que c'est généralement des échecs. Mais ce qui est assez drôle, c'est que sans le savoir, on l'a déjà fait au Québec, ça. Donc, Québec solidaire n'est même pas original dans proposer des mauvaises idées parce qu'on l'a déjà fait. Puis, tous nos auditeurs qui ont passé un certain âge, puis vous êtes quand même jeunes, ceux à qui je m'adresse, là, vous êtes tous en train de célébrer des éditions de votre 29e anniversaire.
qui ça?
C'est tout le monde, mais ils vont se souvenir des épiceries Steinberg.
Ben Steinberg, t'as un peu, c'est la famille Steinberg, ça là, c'est du privé.
Oui, mais c'était du privé, mais en 89, ils étaient en situation financière assez périlleuse et il y a eu une offre de rachat qui était faite par un consortium de logistique maritime qui s'appelait Socanav, qui offrait de racheter 15% de la compagnie et la caisse de dépôt qui rachetait un autre 85%.
Oh.
Donc, pour une offre d'à peu près 1,3 milliard. Et la caisse, bon, elle essaie d'acheter des actifs immobiliers, mais fondamentalement, elle a aussi fait une injection de capital pour aider l'entreprise à se retourner. Donc, elle a fait une injection de 125 millions pour aider une épicerie. Donc, l'État est devenu propriétaire d'une épicerie. À ça, c'est rajouté en passant un prêt qui a été jamais remboursé, donc un cadeau de la Société du développement industriel du Québec, qui était un peu l'équivalent, si tu veux, de l'ancêtre d'Investissement Québec, qui lui aussi, en passant, devrait être aboli. Et au net, ce qui s'est passé, c'est que l'État québécois a détenu pendant 3 ans une épicerie et ça a été un flop monumental. Ça a fini en faillite. La marque Steinberg a disparu. Il y a des milliers d'emplois qui ont été perdus. Et ce qui est assez intéressant dans cette histoire-là, donc ça a été déjà une catastrophe complète, c'est que ça n'a pas été... ça n'a pas fermé parce que l'État n'est pas nécessairement un bon gestionnaire. Ça a fermé en dépit du fait que des concurrents privés n'étaient pas subventionnés. Parce que ce qui a tué la compagnie, en dépit d'avoir accès aux fonds publics, c'était que Provigo, Métro Richelieu, IGA, puis tous les autres détaillants alimentaires ont été capables de compétitionner une compagnie qui avait des injections d'argent des contribuables.
Capoté.
Donc, malgré l'aide de l'État, elle n'avait pas réussi. Donc, je veux juste dire qu'au Québec, on a déjà fait ça. On a déjà joué dans ce film-là. Il y a des gens qui sont en âge de s'en rappeler, d'avoir vu les épiceries Steinberg. Et ça a été un flop. Ça a été un flop monumental, cet investissement-là. Les contribuables québécois ont perdu des sommes assez importantes. Et ce qui est encore plus ridicule, c'est que ça montre exactement toutes les choses que j'essaye de dire à chaque fois qu'il y a des gens qui font des investissements dans des compagnies, que l'État fait des investissements dans des compagnies privées. C'est que tu changes les comportements des joueurs dans ces entreprises-là pour essayer de devenir des entrepreneurs politiques plutôt que des entrepreneurs de marché. Et en devenant des entrepreneurs politiques, tu changes un peu la mission de l'entreprise, ouais. Tu te mets à jouer sur d'autres cordes que d'essayer de satisfaire le consommateur. Et tu le vois ici, dans c'était quoi les motivations pour aider Steinberg, donc d'injecter de l'argent des contribuables dans une épicerie. C'était qu'il voulait garder Steinberg québécois. Il voulait préserver un siège social au Québec, mais surtout parce que la compagnie qui avait fait une offre de rachat en compétition avec la Caisse de dépôt, donc avec compétition avec l'argent des contribuables, c'était une compagnie ontarienne. Et tu peux trouver des articles de journaux qui disent, des éditoriaux dans la presse qui disent « On ne peut pas laisser nos compagnies se faire racheter par des Ontariens. »
Ça, on l'a entendu souvent, là, donc, les fleurons.
Ben, ce qui s'est passé, c'est que c'était pas un fleuron. Ça a fini, comme tous les fleurons que l'État touche, finit par flétrir. Ça a été un flop complet. Et on a utilisé l'épargne retraite des Québécois pour maintenir un champion, quote-unquote, dans l'alimentation. Mais ça a été un flop. En fait, il a même pas été capable de compétitionner malgré les aides publiques. Je le répète, malgré d'avoir reçu des subventions, n'a pas été capable de compétitionner avec des épiceries privées qui n'avaient pas de subventions. Donc, on a déjà joué dans ce film-là. Québec solidaire, là, ce qu'il devrait proposer, c'est de dire on veut ramener Steinberg. OK? Dites-le. Là, c'est ça que vous voulez. C'est vous voulez ramener Steinberg. Welcome back to the 90s. Go for it. Go for it.
Ben,
c'est,
moi, écoute, puis je sais ridicule, pas pourquoi, mais je sens qu'il y a des idées présentement que moi, je juge, puis peut-être toi aussi, complètement farfelues, mais qui collent. Puis là, je vois des analystes s'acharner à ramener ça à toutes les fois qu'ils se pointent à Radcan puis à nous dire « Non, non, c'est une bonne idée, c'est pas fou. » Là, on sort l'héritière là, qui a jamais vraiment travaillé pour sa fortune. Là, j'oublie son nom, là, Claire Trottier, ça se peut-tu? Ouais, c'est ça. Tout le temps pour nous dire qu'on bon, là, faut payer plus, ça prend de l'argent dans l'État. Tu sais, l'histoire des payages, je veux pas changer de sujet, je veux qu'on vienne aux épiceries après, là, mais l'histoire où on finance via un paquet de frais, de taxes, d'impôts, un système d'infrastructure routière et que là, soudainement, tout le monde me dit « Hey, gang, je sais que vous payez déjà, vous devriez repayer pour prendre vos routes. » Puis là, ça colle. T'as plein de monde. « Ah oui, c'est une bonne idée. » Puis là, l'épicerie, même affaire. « Ah ouais, mais en même temps, ils pourraient faire des achats groupés. » Écoute, ils ont de la misère à gérer des boîtes de stylos. J'arrête pas de le dire. Là, on va pas leur donner des salades. Là. Je veux dire, ils vont arriver, ils vont être pourris, salades. Là. Mais on dirait qu'on ne colle pas. Puis là, tu me parles d'un événement du passé, Vincent, l'histoire de 89 de Steinberg. Moi, je te dis que présentement, t'as un maire, M. Mamdani, qui est en train de vouloir en faire 5 épiceries communistes à New York. Il a 60 millions de budget. Il a pas fini la première, puis il est déjà à 30 millions. On le voit que ça marche pas, là. Même pas dans le passé, on le voit dans le réel, dans le présent.
Bien, voici les deux manières que, généralement, des épiceries publiques ont fini. D'une part, soit ça finit avec des pertes considérables pour les consommateurs, pour les contribuables, excuse-moi, dans le sens qu'on a dû essayer d'investir massivement à plusieurs reprises dans la dite société ou épicerie privée. L'épicerie publique, ouais. Parce qu'elle n'était pas capable de faire concurrence, elle n'avait pas les mêmes incitations à contrôler ses coûts. Ça, c'est une des manières que ça se finit. L'autre, c'est que ça se finit avec, si elle ne reçoit pas beaucoup d'aide, ça finit avec des étalages qui sont vides, une grosse portion de tu rentres dans l'épicerie, tout est vide, les services sont pas disponibles, les stocks sont pas là, le service est relativement médiocre. Donc, c'est les deux manières dont généralement ça s'est terminé, ces expériences-là.
Et, mais pas ici, nous autres, on n'est pas pareil.
Non, mais on aurait des produits locaux.
Mais ce que j'aimerais aussi rajouter, c'est que ce que les gens qui semblent proposer l'idée toujours ont l'air de faire des confusions entre les choses, c'est qu'ils ont l'air de parler plus souvent de l'idée de est-ce qu'on pourrait avoir des épiceries coopératives, est-ce qu'on pourrait avoir des modèles dans lesquels, comme les gens maintenant qui achètent, par exemple, des paniers alimentaires déjà faits auprès des producteurs locaux, j'ai aucun problème avec ça, mais
c'est pas le même sujet.
Présentement, oui, c'est le même sujet.
Ben, c'est pas la... Oui, mais c'est pas la même affaire.
Mais oui, mais c'est ça qu'ils essayent d'avoir comme objectif. Puis savez-vous, c'est qui met le plus de barrières à ça présentement au Québec? Le ministère de l'Agriculture.
Ben oui.
Le ministère de l'Agriculture a un code réglementaire qui impose sur l'offre de services qui est d'un ridicule et d'une bureaucratie kafkaïenne byzantine qui est absolument incompréhensible. Jusqu'à il y a une couple d'années, il y avait un règlement qui interdisait la vente de légumes qui avaient l'air moche.
Ah.
Donc, tu pouvais pas, tu sais, dire « Ah non, mais je le sais que la banane elle a l'air un peu endommagée ou que la carotte a l'air étrange. Mais je peux te la vendre en rabais si tu veux ça. Ouais. Ou si tu t'en sers pour des soupes ou des compotes.
Ouais. »
Il y avait des règles là-dessus jusqu'à il y a quelques années. Puis ça, c'était une règle qui était tellement ridicule que tout le monde comprenait que c'était ridicule, mais elle a existé sur les livres pendant plusieurs décennies comme règlement. Mmh. Mmh. Mais t'en as plein d'autres, des comme ça, des choses qui empêchent à des gens d'essayer de faire de l'entrepreneuriat qui pourrait augmenter l'offre de services, mais aussi la diversité du type de service. Donc, le problème ici, c'est pas qu'on n'a pas assez de concurrence ou que l'État pourrait en rajouter, c'est que l'État est lui-même celui qui crée le problème que la plupart des gens qui en parlent disent « Ah, il n'y en a pas assez de concurrence ». C'est vous qui avez créé le problème en défendant toutes ces réglementations-là qui existent ailleurs dans le secteur qui empêchent des gens d'essayer de faire des concurrences sur d'autres marges. Enlevez-les, ces règlements-là. La plupart d'entre eux ne sont pas nécessaires.
D'ailleurs, la Banque du Canada a fait une sortie aujourd'hui pour dire que les contre-tarifs de Mark Carney sont probablement responsable de 6 % de hausse dans l'inflation alimentaire. Moi, juste ça, faire un ménage d'un taxe aussi, là, le paquet de biscuits qui est taxé si t'en as 6 et qu'il ne l'est pas si t'en as 3. Puis, tu sais, je veux dire, il y a déjà des choses à faire avant une espèce de leap of faith dans une épicerie gérée par des fonctionnaires. Tu sais, je trouve des fois qu'on. Est-ce qu'il y a un gros manque, en terminant, est-ce qu'on en fait juste un gros manque d'éducation économique?
Oui, je pense honnêtement qu'à ce stade-ci, ça en est ridicule, mais je pense qu'il est encore pire, c'est le problème de mémoire collective. L'exemple de Steinberg,
on s'en souvient plus.
Il était connu pendant longtemps, puis ça a été un scandale pour le gouvernement libéral de Robert Bourassa, que personne ne va se souvenir aujourd'hui. Mais pour eux, ça avait été un scandale. Ça a été complètement oublié. À un moment donné, je pense qu'un moment de rétrospective culturelle serait un peu nécessaire ici, tout simplement parce que c'est le même type de problème de mémoire collective qui nous donne des répétitions de Nordvolt, mais qui était en fait une répétition de la cimenterie mécaniste, de Tricophile Québec, des subventions à Pontiac, parce qu'on oublie que l'État québécois a déjà donné des subventions pour faire des automobiles au Québec. oublie tout le temps ces espèces d'échecs-là, puis on se dit, mais on va essayer une autre variante de la même chose qu'on a faite, puis peut-être que cette fois-ci, ça va marcher. Non, le problème, c'est un problème fondamental lié aux incitations que l'État, qui est inhérente au jeu politique et à la provision publique.
Si mes chiffres sont bons, là, en 89, Steinberg a vendu à la Caisse de dépôt et à Socanav, je ne sais pas c'est quoi,
ce qu'il disait au début.
Pour environ 1,3 milliard de dollars.
Mm-hmm. C'était
en 89, en dollars de 89.
Et en 92.
Oui, en dollars de 89.
Donc, c'est comme 2-3 milliards. Hey, là, c'est fou.
T'as failli 3 ans plus tard.
Incroyable.
Exactement. Puis la caisse a perdu à l'époque peut-être à peu près 200 millions.
Wow.
Ça inclut pas qu'est-ce que les contribuables ont perdu avec le prêt. Oui. Encore une fois, je mets ça en air quote.
Maintenant, on dit prêt pardonnable.
Oui, ben c'est ça. Ben ça, c'est aussi... ça, c'est... Ben, en passant, ça, c'est une des cannes de thon qui devrait être ouverte.
Ah oui.
La performance d'Investissement Québec est déjà, quand on regarde de manière très crue, sans faire d'enquête plus approfondie, tu vois déjà qu'ils performent moins bien que des bons du Trésor. Donc, on serait mieux de fermer Investissement Québec, le successeur de la Société du développement industriel, puis de juste tout mettre sur la dette. On serait mieux de juste s'épargner les paiements d'intérêt que d'espérer qu'ils battent le marché. Mais je suis sûr que si on se mettait à faire des enquêtes plus en profondeur, on verrait que probablement le chiffre est encore plus bas. Parce qu'on a déjà un passé de ça. Avant, il y avait aussi un truc au Québec qui s'appelait la SGF, qui avait aussi investi dans d'autres épiceries. Il avait essayé d'investir aussi dans des épiceries. Non, les gens n'oublient pas, mais la SGF, elle avait eu un rendement négatif 1 % sur toute son existence. Quand ça a été vu comme étant un flop, ce qui s'est passé, c'est qu'ils l'ont fusionné avec la société, avec Investissement Québec. On a oublié le flop qu'on a brûlé à chaque année. On aurait pu brûler de l'argent, puis ça aurait été plus de rendement que de le mettre dans ces sociétés qui investissent ultimement dans des épiceries.
Ça aurait fait au moins de la chaleur. Là, on aurait pu chauffer à 10 minutes.
Non, non, mais c'est j'en ris parce que c'est mieux ça que, d'en pleurer. Mais c'est... J'aimerais ça rappeler aux gens, on a déjà joué dans ce film-là. Oui. C'est même pas une nouvelle idée, c'est juste une idée à la mode présentement. Mais c'est une idée qu'on a déjà joué dedans.
Tu dis abolir investissement, arrête, ils vont réussir à nous faire croire que c'est un fleuron. Là. Arrête. C'est pas une bonne drague. Hey, merci Vincent, home run encore, toujours. Merci.
C'est un plaisir.
Salut, Vincent Geloso. Aïe, aïe, aïe. On aurait dû le brûler, cet argent-là. Au moins, il aurait fait un peu de chaleur.
Ouellette. En direct.
On revient dans pas long.
Radio X.